Allez voir dans Luc 24. On va faire une petite parenthèse. Des fois, les... Je vais la faire après. Matthieu 24, 9 à 11. Excusez, Luc. Luc 24, 9 à 11. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à toutes les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Les gens qui étaient là, qui écoutaient ce qu'ils venaient de dire, verset 11, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ces femmes-là arrivent avec une bonne nouvelle. Jésus, il est plus dans le tombeau. Et l'ange a roulé la pierre. Il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange s'est assis sur la pierre. Les gardes sont tombés d'un pomme. On est entré, on a vu le tombeau, il est vide. Puis là, eux, ils écoutent ça, puis ben, voyons donc. Vous êtes levés trop de bonne heure à matin, vous rêvez encore. Et mais quelle honte pour ces hommes qui écoutaient ces choses-là. Quelle honte, regardez le commentaire que Jésus dit au verset 25. Eh bien, on peut lire 24 et 25. « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. » Finalement, c'était vrai. « Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ces gens qui... Jésus qui avait annoncé sa mort et sa résurrection, qu'il avait dit à ses disciples. Les femmes qui s'étaient rendues puis qui avaient vu le tombeau vide, qui étaient venues leur rencontrer, leur raconter. Mais ces hommes qui étaient là ont pris ces choses-là pour des rêveries et n'ont pas cru à cause de leur incrédulité. Vous savez le résultat que ces femmes ont eu, que d'avoir été pressées par amour, de se lever de grand matin pour aller voir leur maître, mais ils ont vu un tombeau vide. Et ça, c'était la plus grande joie que ces femmes pouvaient trouver. Cette grande joie que de pouvoir annoncer la résurrection de Jésus. Des femmes d'influence caractérisées par l'amour. Peut-être que l'influence sur le premier moment a été nulle parce que ces femmes-là ont raconté ce qu'ils ont vu, puis ça a été des rêveries. Mais ça s'est retourné contre eux plus tard, par exemple, parce que ces femmes-là, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont dit, était véridique aussi. Marie de Magdala revient au tombeau. Et puis, on le lira pas, je vous fais juste donner le texte. Jean 20, 13 à 16. Marie s'en va, retourne au tombeau, elle pleure. Elle décide d'entrer et finalement, elle voit ces deux anges qui sont là, qui parlent. « Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi tu pleures, Marie? » Et la première apparition de Jésus ressuscité, c'est Marie de Magdala qui l'a vu. Marie a vu Jésus ressuscité. Il est retourné au tombeau. Et Jésus, elle pensait que c'était le jardinier, jusqu'au moment où ce que Jésus lui a dit, « Marie ». Et là, elle a compris c'était qui. Ces femmes-là qui étaient en route pour s'en aller annoncer à d'autres disciples, Jésus les a interrompues dans leur marche, puis s'est présenté à elles aussi. Regardez dans Matthieu 28, je vous demandais de garder un doigt tantôt, versets 9 et 10. Matthieu 28, 9 et 10. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Première apparition a été faite à ces femmes qui étaient de grand matin, pressées d'aller voir leur maître. Et le résultat qu'on en voit aujourd'hui, c'est qu'elles ont vu ce tombeau vide-là. Elles ont vu cette première apparition-là de Jésus ressuscité. L'exemple de ces femmes devrait nous encourager à être pressées par cet amour-là aussi. Une femme d'influence devrait être caractérisée par l'amour de son maître, l'amour de Dieu. Certainement, ça rejoint les deux plus grands commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Tantôt, je vous disais, ça peut paraître tellement évident que ça peut sembler banal. Mais ça ne l'est pas banal. C'est vraiment un point de départ pour jouer, même nous, messieurs, d'être caractérisés par l'amour. Les Écritures nous disent dans Éphésiens, aimez votre femme. Et c'est vrai pour les femmes aussi dans vos rôles. Être caractérisé par l'amour de Dieu, être caractérisé par l'amour de votre prochain, être pressé par l'amour de Christ. Ces femmes qui étaient près de Jésus, qui étaient les premières à découvrir la résurrection, ont eu de grands privilèges. Aimer, ça peut paraître abstrait. L'amour, c'est ça peut être un verbe abstrait. Hein? Je pourrais vous demander, décrivez-moi, donnez-moi une définition de l'amour, d'aimer. Et ça peut sembler difficile à définir avec des mots. Mais la parole nous enseigne à concrétiser l'amour en action. Et Jean, nous dit dans son épître, on pourrait changer le premier mot, « Mesdames, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Cet amour qui nous amène à aimer en action et en vérité. Un amour, comme je disais tantôt, qui fait place à l'espérance. Un amour qui fait place à la vaillance, au service. Un amour qui fait place au sacrifice, à l'abnégation, qui ne fait pas place à l'intérêt personnel. Si tu aimes comme Dieu te le demande, attends-toi à de grands résultats. Ces femmes-là ont eu de grands privilèges, de grands résultats. Quand on met en pratique l'amour que Dieu veut qu'on mette en pratique, c'est pas pour rien qu'il nous le dit. C'est parce qu'on en a des bénéfices à en tirer. Ça se peut qu'en marche, en cours de route dans notre vie ou dans nos relations, dans nos rôles, on soit confronté à des obstacles humains, à une pierre, qu'est-ce que je vais faire? Ou à des gardes qui sont là comme ces femmes qui s'en allaient au sépulcre. Mais quand on aime, quand on est pressé par cet amour-là que Dieu veut que l'on ait, bien, Dieu accomplit son œuvre aussi à travers cet amour-là qu'on met en pratique. Une femme d'influence est caractérisée par l'amour. Et là, je lance un mot qui, des fois, fait une petite bombe, soumission. Et on reviendra sur ça, je vais juste lancer le mot. Mais vous savez quoi? Les Écritures disent aux femmes qu'un de ses rôles, c'est la soumission. Mais la soumission prend son... Je fais attention à mes mots, là. prend son sens agréable quand il est alimenté par l'amour. De se soumettre sans aimer, ça peut devenir dur, rigide, difficile, sans intérêt, puis ça nous donne le goût d'abandonner. Mais quand que je décide d'aimer Dieu, Dieu, je vais t'aimer, puis je veux faire ce que tu me demandes, premièrement. Puis là, Dieu, tu me demandes de me soumettre, mais je vais le faire parce que je t'aime et aussi parce que j'aime mon mari. On va y revenir. L'amour est certainement le gaz, le moteur pour la soumission, pour les rôles. Et là, je parle de soumission, ça rejoint certainement la relation entre un homme et une femme, mais l'amour devrait nous presser, dans quel que soit notre rôle, quel que soit ce que Dieu nous a donné, où Dieu nous a placés, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. L'influence devient efficace à partir du moment qu'on est caractérisé par l'amour. Je veux vous donner un deuxième exemple. Une femme d'influence est caractérisée par la confiance. J'aimerais vous inviter à tourner dans Marc. Marc 5. Une femme d'influence fait confiance et est digne de confiance aussi, certainement. L'exemple qu'on va voir, c'est une femme, on n'a pas beaucoup de détails autour de cette femme-là, mais on va voir la foi d'une femme qui s'est approchée de Jésus. Le résultat, est-ce qu'on peut en tirer comme dans son exemple, puis du résultat, puis on va appliquer ça aussi dans nos vies après. Dans Marc 5, à partir du verset 24, on va aller jusqu'à 34. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le pressait, le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Quel exemple de foi que cette femme-là pouvait avoir. Imaginons pendant un instant, cette femme qui avait ses pertes de sang pendant 12 ans, épuisée physiquement, au bout de ses forces, qui avait rencontré plusieurs médecins, qui avait dépensé tout son argent, qui était au bout de ses ressources. Et là, elle a entendu parler de Jésus, puis elle se dit, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus, il est en train de se promener, là, puis il y a une foule autour de lui. C'est-à-dire, une foule le suivait et le pressait. Jésus, il est au milieu d'une foule, là, c'est la cohue, et il y a plein de gens qui touchent Jésus. Mais il y a plein de gens qui touchent Jésus qui n'ont pas été transformés. Il y a plein de gens qui ont touché Jésus, puis ça leur a rien changé dans leur vie. Puis cette femme-là, elle s'est dit, « Si je touche Jésus, il va transformer ma vie. Il va me guérir. Si je peux seulement toucher son vêtement. » Imaginez cette femme qui est à bout d'énergie, qui est épuisée, qui réussit à surmonter la foule, puis peut-être juste frôler son vêtement, et puis qui est guérie instantanément. Jésus, il se retourne de bord. C'est intéressant de voir l'attitude de Jésus. Hein? Qui m'a touché? Là, les disciples sont là, mais là, franchement, Jésus, c'est parce qu'il y a une foule autour de toi, là, puis tu demandes qui t'a touché. Mais Jésus savait très bien ce qui venait de se passer. Et la femme savait très bien ce qui s'était passé. La femme a senti sa guérison et Jésus a senti qu'est-ce que ça dit, sa force ou une force sortir de lui pour guérir cette femme-là. Et la femme, tout tremblante, effrayée, verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachait ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et je trouve que l'exemple de cette femme-là, à chaque fois que je lis cet exemple-là, ça me touche beaucoup, de voir cette femme-là qui est effrayée, qui a peur, qui est vulnérable devant Jésus. Jésus qui semble un peu intimidant, qui m'a touché? Puis qu'elle vient se jeter à ses pieds, puis c'est moi. Avez-vous remarqué l'attitude de Jésus? Est-ce qu'il lui a reproché? Pas du tout. Ma fille, verset 34, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Quel résultat? Quel exemple est-ce que cette femme avait que d'avoir cette confiance-là, d'avoir entendu parler de Jésus, de dire « si seulement je peux toucher son vêtement ». La confiance est un élément tellement clé dans ma relation personnelle avec Dieu. La foi que j'ai de Dieu, la confiance que j'ai en lui, le résultat certainement a été sa guérison. Seul Dieu est digne d'une confiance absolue. Seul Dieu, je peux me confier en Dieu seul pour avoir cette confiance-là absolue. Mais de l'autre côté, Dieu nous enseigne à être à son image, à être des gens dignes de confiance aussi. Des gens qui montreront cette fidélité-là, la fidélité. Je vais juste vous citer Proverbe 31, le verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. On parle de cette femme vertueuse. Et elle se rit de l'avenir. Cette femme qui était vertueuse, certainement, elle avait une confiance à un point qu'elle savait que l'avenir n'était pas un problème pour elle. Certainement qu'elle craignait Dieu. Verset 11 aussi de Proverbe 31 dit, « Le cœur de son mari a confiance en elle, digne de confiance. » Le mari de cette femme-là a confiance en elle. Il va lui confier quelle que soit la responsabilité. Il a confiance à ce qu'elle va faire. Et les produits ne lui feront pas défaut. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas confiance en Dieu? Certainement que le manque de confiance, on pourrait employer le mot contraire de confiance par méfiance. Je me méfie, je suis sur mes gardes, j'ai peur. Et ça nuit beaucoup. Ça l'aurait nuit à cette femme-là si elle avait entendu parler de Jésus, puis elle a dit, « Ouais, mais dans le fond, tu sais, est-ce que moi, il va me guérir? Ouais, mais moi, je suis au bout de mes ressources, là, je suis fatigué, là, j'ai plus l'énergie, pas en tout, là. Je vais-tu vraiment affronter cette foule-là pour toucher Jésus? Juste pour toucher Jésus en espérant que ça marche vraiment? » Mais oui, elle l'a fait. Mais si elle s'était méfiée, si elle s'était abstenue de faire confiance en Jésus, elle n'aurait pas eu cette guérison-là. L'incrédulité nous prive du repos que Dieu veut nous donner. Cette femme était privée, ne s'est pas privée de ce que Dieu pouvait intervenir dans sa vie, puis Jésus ne l'a pas chicané non plus. Il l'a encouragée. Ta foi t'a guéri? Je pourrais vous demander de faire un verbe avec le mot confiance. Confier. Hein? On peut, cette femme d'influence, se confier en Dieu. on peut lui faire confiance, on peut lui confier des choses. Elle confie des choses aussi. Je vais juste vous citer Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. La confiance est un élément que Jésus, que Dieu nous apprend. Il nous confie des petites choses pour voir que, tranquillement, pas vite, on va pouvoir être cette fidélité-là dans les petites choses pour être fidèle dans les grandes choses aussi. La confiance est un élément clé dans nos relations. Dans ma relation avec Dieu, mais dans ma relation avec mon prochain aussi. Dieu nous confie des petites choses pour éventuellement nous en confier de plus en plus grandes. Combien de fois est-ce que, par mon infidélité, par mon péché, j'aurais pu perdre la confiance de Dieu? Mais Dieu continue de me confier des petites choses, de plus en plus grandes. Dieu veut faire grandir ma fidélité. Cette confiance-là, que je sois reconnu par la fidélité, que la femme d'influence soit reconnue par sa confiance, par sa fidélité. Si c'est vrai dans notre relation avec Dieu, c'est vrai dans nos relations interpersonnelles, puis c'est un élément clé. Est-ce qu'on est des gens de confiance? Est-ce que vous êtes une femme caractérisée par la confiance? En commençant dans votre confiance envers Dieu, puis envers votre prochain. Dans les situations de tous les jours, comment est-ce que vous vous confiez en Dieu quand viennent des difficultés? Est-ce que je les remets à Dieu ou est-ce que je cherche à m'en libérer par moi-même, par mes propres forces? De cette confiance de se tourner à Dieu. Et quand que je marche vers Dieu et lui dire, Dieu, j'ai besoin de toi, puis je veux toucher son vêtement, mais Dieu agit, Dieu intervient aussi. Puis dans une relation aussi, si on peut prendre une relation de couple, la confiance mutuelle qu'il y a est extrêmement importante aussi. Certains vont appeler ça la chimie d'équipe. Hein, une équipe qui fonctionne bien ensemble, c'est parce qu'ils ont confiance dans les coéquipiers qui sont là. Et il sait très bien, c'est une équipe de hockey, que son partenaire va toujours être au même endroit, dans la même situation, puis qu'il peut passer la puck sans problème. Cette chimie-là doit se vivre aussi par la confiance dans nos relations interpersonnelles. J'aimerais juste vous citer Jim Burns qui a écrit un livre intéressant justement sur les relations. Les maris ont besoin de savoir que leurs femmes les respectent, en privé et en public. Les hommes se portent bien lorsqu'ils savent que leurs femmes ont confiance en eux, qu'elles les admirent et croient en eux. La confiance que la femme va porter à son mari est extrêmement importante. Et ce que je viens de vous citer a été une étude portée sur 1000 hommes qui révélait cette tendance-là que les hommes apprécient avoir la confiance. Et vice-versa, c'est vrai, j'imagine, pour vous, mesdames aussi, d'avoir la confiance de votre mari, de vos proches. La confiance est quelque chose qui se crée peu à peu, qui grandit. La confiance, ça se gagne, ça se construit aussi. Peut-être que vous pourriez vous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus confiance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai l'impression que je ne suis plus capable d'avoir confiance en cette personne-là? Je vous dirais que la première étape, c'est d'avoir cette confiance-là que cette femme a eue, que de se rendre à Jésus. Quand les moyens nous manquent, de se rendre à Dieu, dire à Dieu, racontez-lui votre découragement, votre désespoir. Dieu, je suis plus capable de faire confiance. Dieu, j'ai cette difficulté-là dans ma vie. Ça me fait mal. J'ai besoin que tu interviennes. Et la confiance, comme je disais tantôt, est quelque chose qui se crée peu à peu. La confiance, des fois, on pourrait dire, j'ai demandé pardon, tout est réglé, on recommence à zéro. Mais parfois, la confiance a été brisé. Bien que le pardon a été accordé, la confiance a besoin d'être rebâtie. Petit peu à petit peu, comme que Dieu fait avec nous. Il nous confie des petites choses et je suis fidèle dans les petites choses. Et tranquillement, pas vite, je montre que je peux être fidèle dans de grandes choses aussi. Regagner la confiance et ouvrir évidemment mon cœur à laisser l'autre faire des preuves qu'il est digne de confiance peu à peu aussi. Mais le manque de confiance, la méfiance peut produire de grands désastres dans des relations interpersonnelles. Comme dans ma relation avec Dieu aussi. À partir du moment que je deviens incrédule de Dieu, je me prive de beaucoup de choses.